Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je reçois Colline Didier et Charlotte Lischer, les cofondatrices de Social Déclic, la communauté qui aide les freelances à mettre du sens dans leur mission et à travailler avec des acteurs à impact positif. Ensemble, on discute de la genèse de leur projet à impact, mais aussi de la manière dont les indépendants, tout comme les salariés, peuvent responsabiliser leurs pratiques métiers en se posant les bonnes questions et en adoptant les bons outils. Bonne écoute ! Salut Charlotte, salut Colline.
Salut Noémie.
Salut.
Bienvenue dans The Storyline.
Merci beaucoup.
Je suis hyper contente de vous recevoir toutes les deux. C'est un épisode un peu spécial parce que c'est très rare que je fasse des enregistrements à trois voix. Mais aujourd'hui, on est ensemble dans le même endroit, on a le matériel pour, donc ça va être très chouette de bénéficier non pas d'un témoignage, mais de deux.
Carrément. Nous aussi, c'est une première, je crois, d'interviewer ensemble sur un podcast.
Carrément.
J'ai vraiment l'impression d'être une professionnelle de la radio. Je vais profiter de ce moment ensemble.
Bienvenue sur France Inter.
On n'est pas loin, on n'est pas loin. Sky is the limit. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir et de pouvoir partager aux auditrices et aux auditeurs votre parcours, votre engagement et tout ce que vous avez construit autour de Social Déclic, qui est une initiative, un mouvement vraiment fascinant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu vos parcours ? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie avant de vous rencontrer, de vous associer et de créer Social Déclic ?
Je te laisse démarrer, Colline. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? Non, alors moi, du coup, j'ai une formation plutôt d'ingénieur informatique avec une filière finance. Donc moi, j'ai commencé par de la finance de marché, donc à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Je ne renie pas du tout, c'est une expérience très intéressante, mais qui m'a accéléré, je pense, mes convictions, mon engagement et mon envie justement de travailler pour les enjeux sociaux environnementaux, parce que j'ai senti assez rapidement une dissonance avec ce que je faisais. Et du coup, un retour en France, parce que je faisais ça à l'étranger, je me suis dit, voilà, je vais travailler d'abord dans un premier temps dans la finance solidaire, donc c'est ce que j'ai fait, donc pour travailler pour des projets innovants et dans du financement participatif. Et suite à ça, j'avais vraiment l'envie d'entreprendre avec l'envie d'entreprendre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Moi, je crois beaucoup à une économie qui est rentable, mais stable et qui ne va pas chercher l'hypercroissance, qui va juste chercher une rentabilité dans la viabilité, la stabilité. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer Social Déclic.
Trop bien, merci.
Pour ma part, moi, je n'étais pas partie pour faire de longues études. Les choses se sont présentées petit à petit. Je ne viens pas d'une famille où les gens font de longues études. Mais bon, il s'avère que j'ai fait un bac plus 2, puis un bac plus 3, puis l'IAE, qui est un peu l'équivalent d'une école de commerce. Pareil, par opportunisme, je me suis retrouvée en cabinet de conseil à travailler avec des acteurs du CAC 40 sur leur transformation digitale. J'ai fait ça pendant 10 ans à peu près à Paris. Et je crois que mon premier déclic sur les enjeux sociaux et environnementaux, ça a été de commencer à faire du bénévolat, du mentoring. Et j'ai réalisé qu'on était quand même très loin d'une justice sociale en étant vraiment dedans. Notamment, j'ai été bénévole dans une unité locale à la Croix-Rouge dans le 20e arrondissement. Et du coup, là, j'ai envie, dans les cabinets de conseil dans lesquels j'étais, de faire bouger les lignes en essayant de proposer un peu plus de mécénat de compétences. Mais j'ai vu que c'était quand même compliqué parce que y a une quête de pérennité, de toujours satisfaire les clients. Et donc, les consultants qui étaient en mécénat de compétences, dès qu'ils gagnaient une opportunité de mission, on les enlevait de leur mission en mécénat de compétences pour une asso. Et puis, ils allaient travailler pour un acteur classique. Ouais. Donc, ça avait commencé à créer les premières frustrations. Je me rendais compte que c'était compliqué de faire bouger les lignes de l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui arrivent, mais moi, ça crée chez moi beaucoup de frustrations. Et puis après, j'ai eu l'arrivée de mon bébé, une fresque du climat, le Covid et tout ça. Et je me suis dit, j'ai plus envie que ce soit juste un side project. J'aimerais vraiment que mon travail soit un territoire d'engagement. Et je crois que dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'est à ce moment-là que Colline m'a appelée pour me parler de son projet, d'aider les freelances à trouver des missions dans le secteur de l'impact. Et au départ, je m'étais dit, je vais aider le soir, le week-end, comme je pourrais. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, enfin, je suis tombée enceinte de mon deuxième bébé et ça a été l'opportunité pour moi de négocier une rupture conventionnelle dans la boîte dans laquelle j'étais et du coup de me mettre à 100% avec Colline sur le projet Social Déclic.
Les étoiles étaient alignées, en effet. Mais il n'y a pas de hasard, je suis d'accord. J'aime bien raconter que bah, pour justement Communo, qui est mon deuxième projet en parallèle de The Storyline, je me rendais compte que les communautés étaient au cœur des enjeux des entreprises et ça me passionnait parce que moi-même, je considère qu'une grande partie de mes activités d'indépendantes ont été portées par mon réseau et les gens qui m'entourent. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alexandre, qui est devenu mon associé. Et donc finalement, je pense que plus tu... Je ne suis pas fan de ce concept de manifester des choses que la génération Z utilise à tout bout de champ. Mais finalement, plus tu rayonnes un truc, je pense, plus tu exprimes une préoccupation que tu incarnes, plus les choses viennent à toi assez naturellement.
Complètement. Et pour rebondir, moi, je me disais, je ne veux pas monter ce projet seul.
Ouais.
Mais je ne connaissais personne autour de moi qui était intéressé, disponible pour faire ça. Et du coup, intuitivement, je pense que... Enfin, c'est facile de dire après coup, hein, mais je me suis dit, je vais faire comme si je ne le montais pas seule. Du coup, je vais initier le projet seule, mais en étant vraiment dans l'accueil, l'ouverture de la rencontre de quelqu'un qui puisse se greffer au projet. Et finalement, encore une fois, hyper facile de dire une fois que la magie est arrivée, mais je pense que j'avais cette confiance de me dire, sur ce chemin, je trouverai quelqu'un qui partagera mes valeurs et qui sera en phase avec... avec le projet. Et ce qui est chouette, c'est qu'on s'est rencontrés très tôt quand même dans le projet, il faut le dire, peut-être un mois et demi ou deux après que j'ai fait les premières briques. Donc c'est ce qui nous a permis aussi de vraiment tout construire ensemble. Et j'avais pas forcément beaucoup avancé, on était vraiment au balbutiement, quoi.
Trop bien. Bah, je rebondis juste là-dessus parce que ça me fait penser à une de mes citations préférées. Tu dis, oui, c'est facile maintenant de conceptualiser et d'expliquer le parcours. Il y a une citation de Steve Jobs dans son discours à Stanford qui est hyper inspirant et que je recommande à tout le monde, qui dit notamment, il faut en fait avoir confiance dans quelque chose, la destinée, le karma, ses tripes, parce qu'en fait, c'est impossible de connecter les points de sa vie et de son cheminement en regardant en avant. C'est que quand on regarde derrière son épaule, qu'on se dit, ah, en fait, il y a une cohérence dans ce que j'ai fait, qui était portée par un truc sur lequel je ne mettais pas forcément de mots. Donc, je comprends très bien et j'encourage les gens à suivre leur instinct. Vous avez construit Social Déclic ensemble. Du coup, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu qu'est-ce que c'est aujourd'hui concrètement, qui est dedans, en quoi ça consiste?
Carrément. Bah déjà, Social Déclic, ça a beaucoup évolué en 3 ans. Ça a évolué en termes de statut. Pour déjà tester le projet, on a monté une association pour voir déjà s'il y avait une vraie réponse et un vrai marché sur ce qu'on voulait proposer. Et puis après, bah, en termes de statut, on a évolué vers une SAS avec un agrément ISUS. Donc déjà, le statut a évolué. Puis on s'était posé plein de questions sur ce sujet du statut. Est-ce qu'on développe plutôt une coopérative? Enfin, c'était intéressant. En tout cas, il y avait cette volonté d'être en gouvernance ouverte dès le départ et de consolider une communauté. Et je crois que c'est ce qui a fait aussi que ça a fonctionné, qu'aujourd'hui, on continue à se développer dans cette culture et dans cette envie-là. C'est que bah, au départ, il y avait un freelance, puis deux, puis trois. Et l'idée, c'était vraiment qu'ils puissent participer à la construction de l'offre de services qu'il y avait derrière la communauté. Et qu'on voit déjà si on était en mesure ou pas de faire des mises en relation, puisque nous, c'était notre objectif, entre des freelances d'un côté en quête de sens et d'impact, et de l'autre, ce qu'on appelle le secteur de l'impact positif, ce qu'on appelait avant plutôt l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui est plus large que juste les structures qui font statutairement partie de l'ESS. Et donc, bah, c'était de tester ça. En fait, on a vu ensuite que ça marchait, et du coup, on a proposé, on a ouvert la communauté à celles et ceux qui voulaient nous rejoindre. Et après, plus tard dans le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait, au-delà de la mise en relation et de l'entraide portée par la communauté, il y avait aussi un besoin de se former pour être en mesure d'aller soi-même construire un réseau, développer un projet aligné avec ses valeurs, donc aussi se questionner en introspection sur quels sont les objectifs de développement durable qui me tiennent à cœur, quels sont les types de structures avec lesquelles j'aimerais travailler demain, et ensuite se construire tous les outils dont on a besoin pour faire connaître cette ambition professionnelle-là, prospecter, réseauter. Et de là est née la deuxième offre de service qu'on a développée un peu plus tard, qui est le programme Freelance for Good, qui est un programme collectif et en ligne, où on constitue des petites promos 4 fois par an, et ils vivent l'aventure ensemble de développer une activité alignée avec leurs valeurs.
Et donc, vous avez signé la fin d'une promotion il y a quelques instants, si j'ai
C'est
bien
ça,
compris.
Ouais.
Génial, félicitations. Ok, très complet. Tu veux rajouter quelque chose, Colline, ou ça...
Non, peut-être, alors que ce qui m'évoquait, parce qu'on est aussi là pour parler de communauté, et tu parlais de gouvernance partagée, et c'est vrai que nous, on a mis en place quelque chose aussi assez vite, c'est un comité pour nous aider à avancer. Et sur ce comité, on a fait intervenir un freelance, une association et des gens qui étaient intéressés par notre projet, pas forcément des clients, mais en fait des parties prenantes. Mmh. Et du coup, c'est aussi un peu une forme de communauté. C'est pas vraiment nos clients, c'est pas des gens qui rejoignent notre collectif, mais c'est des gens qui gravitent autour de nous et qui nous aident à avancer. Et honnêtement, ces comités, au début, c'était une fois par mois. On prenait une heure pour répondre à nos enjeux, on posait des questions, on brainstormait ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé à grandir, c'est de réfléchir en collectif. Et je pense que si on avait réfléchi que toutes les deux, et encore au collectif, on est déjà deux, on aurait été moins vite, on aurait été en tout cas, on aurait peut-être été même moins loin dans la réflexion. Donc voilà, je souligne ça aussi sur la partie gouvernance partagée. C'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé de s'entourer.
Hyper cool. Ouais, ben on y reviendra. C'est une question que j'avais envie de vous poser justement sur la place des membres de la communauté, etc. Mais avant ça, peut-être une première question par rapport à ce secteur de l'impact. À quoi il ressemble? Enfin, quels sont les enjeux liés aux acteurs de l'impact? Et est-ce qu'il y a une différence entre les freelances qui bossent dans le secteur de l'impact et ceux qui ne bossent pas dans le secteur de l'impact? Est-ce que c'est une question de conviction? Est-ce que c'est une question de pratique métier? Est-ce que c'est une question, finalement, de nouvelles compétences? C'est pas simple de, finalement, de savoir comment initier une transformation quand on est freelance traditionnel, entre guillemets, et qu'on a des clients qui viennent d'industries classiques.
Alors, le secteur de l'impact, comme tu l'évoquais, Charlotte, c'est quelque chose qui est assez en mouvement. L'impact, ça veut un peu tout et rien dire. Ouais. Donc, ça englobe pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses. Déjà, il y a les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. C'est quelque chose dont on parle souvent, mais c'est un peu un référentiel dans le secteur de l'impact, justement. Et donc, c'est de se dire qu'une entreprise engagée est une entreprise qui va essayer de répondre à un de ces enjeux-là. Quel que soit son statut, quelle que soit la manière, c'est déjà un acte de se dire je ne crée pas une entreprise pour gagner de l'argent, je crée une entreprise pour essayer de résoudre un des enjeux sociétaux ou environnementaux de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs. Mm-hmm. Donc ça, c'est une manière de définir les structures de l'ESS, enfin de l'impact. Et à l'intérieur de ça, il y a donc les structures de l'économie sociale et solidaire qui, elles, sont statutairement les associations, les coopératives, les mutuelles fondations. Mais tout autour de ça, il y a tout un tas de structures qui sont, par exemple, comme nous, des SAS avec un agrément ESUS et qui essayent d'œuvrer pour les objectifs de développement durable.
Est-ce que je peux me permettre de se demander qu'est-ce que c'est un agrément ESUS? Et vous répondez à quel objectif de développement durable?
Carrément. Un agrément ESUS, c'est un agrément qui a été créé par la loi Hamon en 2014. D'ailleurs, si on veut faire un peu l'histoire, l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, depuis la révolution industrielle. Les associations, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'association Loi 1901. Donc, ça date depuis plus d'un siècle. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez vieux, finalement. Mmh. En revanche, l'ouverture de l'économie sociale et solidaire aux structures dites classiques, type SAS, SARL, c'est beaucoup plus récent. L'agrément ESUS, il est arrivé en 2014 avec la loi Hamon, de Benoît Hamon, avec, en fait, cette idée de dire des entreprises peuvent aussi porter les enjeux sociaux et environnementaux avec un modèle économique un peu plus classique qui est du coup SAS ou SARL, mais qui essaye quand même de porter ces enjeux-là. Et donc, c'est un agrément. En gros, on répond à un certain nombre de critères. Mm-hmm. Par exemple, on ne peut pas faire un écart de salaire de plus de 7 entre le plus petit salaire et le plus haut salaire. Un autre exemple, on est obligé d'avoir une gouvernance partagée une fois par an au minimum pour justement faire inclure les parties prenantes et nos clients dans notre réflexion. Et puis enfin, un critère assez fort aussi, c'est que dans nos statuts, on est aussi obligé de répondre à un objectif d'utilité sociale tel qu'il est défini dans la loi. Donc il y a des choses qui sont définies et on doit forcément répondre à un de ces enjeux-là pour pouvoir avoir l'agrément ESUS. Et du coup, nous, notre ODD, alors c'est l'ODD 17 qui est du coup le partenariat avec l'ensemble des objectifs de développement durable, parce que nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de permettre aux structures qui répondent aux 16 premiers ODD de trouver des talents engagés pour continuer à construire leur structure et pour avoir plus d'impact sur leurs bénéficiaires.
Ok, c'est super clair, merci beaucoup. En effet, un secteur vraiment très large dont il est dur de comprendre les codes, les modalités, les besoins et les enjeux finalement. Notamment en termes de talents engagés, qu'est-ce que vous entendez par talents engagés du coup?
Ça rejoint ta question que tu posais à l'instant de est-ce que c'est quoi un freelance traditionnel et c'est quoi un freelance engagé? Et c'est vrai que nous, on n'aime pas mettre en opposition ces deux-là parce qu'on pense que c'est vraiment un cheminement. On aura réussi notre job quand tout le monde, en tout cas, se posera cette question-là de comment je peux faire un peu mieux pour participer à la construction d'un monde plus juste et plus durable à mon échelle en mettant à profit ma zone de génie. C'est déjà une question qu'on peut tous se poser. Et du coup, ça passe par différentes choses. La première, et je crois que tu l'évoquais dans ta question, c'est déjà se poser la question de ses pratiques métiers. Mm-hmm. Comment, dans mes pratiques métiers, je peux ajouter une couche de responsabilité, de durabilité. Par exemple, je suis communicant. Est-ce que je ne peux pas essayer de me former, de m'informer sur la communication responsable et sobre pour essayer de tendre vers ça? Est-ce que je ne peux pas essayer de me renseigner sur l'écriture inclusive pour faire en sorte que les minorités se sentent aussi représentées, notamment sur la toile, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ou un autre exemple, je suis développeur web. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu d'accessibilité du numérique pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que ça ne vaut pas le coup que j'aille me former là-dessus? Donc ça, c'est la première chose, c'est la pratique métier. Et c'est déjà une première question hyper intéressante. Et finalement, la résoudre, c'est déjà être quelque part freelance for good.
Carrément. Et c'est quelque chose que finalement, au-delà des freelances, l'intégralité des collaborateurs peuvent se poser comme question pour peut-être impulser un début de réflexion et de transformation dans leur entreprise.
Exactement.
Mais c'est simplement pas votre positionnement à vous, vous vous adressez aux indépendants. Pourquoi particulièrement les indépendants d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une raison spécifique?
Colline donnera son histoire aussi par rapport à ça, mais moi par rapport à mon histoire et quand Colline m'a pitché son projet, pourquoi ça a résonné en moi? Parce que justement j'avais essayé de faire bouger les lignes de l'intérieur dans mes expériences professionnelles en tant que salariée. Et comme je te le disais tout à l'heure, ça avait généré quand même pas mal de frustration chez moi. Et en fait, j'avais aussi des freelances dans mon entourage. Et c'est vrai que quand Colline m'a dit, voilà, mon idée, c'est de mettre en relation les freelances et les aider à faire bouger les lignes auprès des structures à impact, je me suis dit, bien évidemment, parce qu'on choisit d'être freelance pour la liberté. Souvent, c'est la liberté de la situation géographique, de ses horaires de travail, de son équilibre vie pro, vie perso. Mais ça peut être tout à fait un choix engagé, voire activiste, de se dire, je décide de travailler avec ce client ou pas. J'essaie d'imposer plus ou moins en douceur des pratiques métiers responsables et je me suis dit cette liberté est quand même un super moyen de faire bouger les lignes de l'intérieur sur des boîtes qui vont transiter vers des modèles plus vertueux de façon plus ou moins avancée dans ce cheminement et surtout d'être des vrais alliés pour des structures de l'impact qui n'ont pas forcément en interne le super dev, le super no-codeur, la super community manager, etc., mais qui vont avoir besoin ponctuellement de ces ressources-là pour pouvoir évangéliser le grand public sur leur cause, pour pouvoir parler, pour donner envie à d'autres bénévoles de s'engager, pour aller parler à leurs bénéficiaires, pour aller chercher des donateurs et des mécènes. Et du coup, ça me paraissait évident que c'était un public qui, aujourd'hui, n'était pas finalement représenté. Il y a la RSE pour les entreprises, il y a plein de choses, mais finalement, pour les free, il n'existait pas énormément de choses à ce stade.
C'est vrai.
Et voilà, du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'était hyper pertinent.
Génial. Je me permets d'ajouter une petite mention. Ils ne sont pas passés dans le podcast de Storyline, mais dans Community Centric. Pour les marketeurs dans les entreprises à impact, il y a une plateforme qui s'appelle Marketing Flow. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ah. Pierre et Mégane, qui sont assez, assez incroyables et qui ont créé une belle communauté de marketeurs engagés qui sont aussi en CDI, pour le coup, dans les entreprises à impact. Donc, en effet, c'est vrai que du côté des freelances, plus difficile de naviguer dans cet univers. Qu'on soit indépendant ou pas, vu que ce storyline parle un peu de futur du marketing et de la communication, est-ce que vous avez des pistes et des conseils dont tu as parlé de l'écriture inclusive et de l'impact du discours, notamment, entre autres, pour les communicants? Est-ce que vous avez d'autres pistes de réflexion pour les marketeurs et les créateurs de tout type qui souhaitent commencer à questionner leurs pratiques, que ce soit en termes de questions à se poser, mais aussi peut-être en termes de ressources à consulter, à part la formation sociale d'équipe, bien évidemment?
Complètement. Alors déjà, un principe un peu de base, même sur tout sujet, c'est de remettre en question le besoin et l'utilité de chaque action. Une des meilleures choses pour être éco-conçu, c'est de faire que ce qui est utile. Et donc, c'est toujours se poser la question dans la communication. Est-ce que j'ai besoin de faire cette publication? Est-ce que j'ai besoin de faire cette action de communication? Toujours vraiment repenser le besoin et l'utilité et pas le faire par mécanisme. Donc ça, c'est un peu le principe de base et qui va du coup là pour quasi tout type de métier, du développeur au graphiste, voilà, tout type de métier, se poser cette question-là. Après, c'est intéressant de regarder quand même un peu les plateformes aussi qui existent. Il y a un fort impact, on le disait un petit peu, fort impact du numérique. L'impact du numérique est assez grand, c'est 4% des gaz à effet de serre, c'est autant que l'aviation civile, c'est pas forcément quelque chose dont on a conscience.
Ouais.
Et donc, c'est aussi se dire, voilà, si je fais, par exemple, une vidéo sur TikTok, ça a vraiment un impact fort. Comprendre un peu les différents niveaux d'impact. Et donc, tout ce qui va être vidéo, c'est quelque chose qui est beaucoup plus consommateur d'énergie. Donc, avoir un peu ces idées-là. Et pour la ressource dont tu parlais, pour justement prendre un peu conscience de ces différences d'impact qu'on peut avoir, c'est le guide de la communication responsable de l'ADEME, qui a sorti un livre assez gros de plusieurs centaines de pages avec pas mal justement de conseils pratiques pour remettre en question sa pratique. Donc ça va plutôt sur la partie éco-conception. Et puis après, il y a toute la partie accessibilité. On parle de l'handicap, mais aujourd'hui, il y a aussi un tiers des personnes qui ne savent pas utiliser les compétences fondamentales du numérique. Donc attention aussi quand on communique à s'assurer que c'est accessible à tous et toutes sur ces sujets-là. Et puis il y a bien sûr la question de l'inclusivité, que ce soit l'inclusivité de toutes les minorités, j'allais dire que ce soit l'égalité homme-femme, mais aussi de s'assurer qu'on essaie de faire de la communication inclusive pour tout type de personnes. Vraiment repenser à ces sujets, se former sur ces sujets. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent.
Oui, je fais une petite parenthèse. Enfin, l'ADEME, du coup, pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas encore, c'est l'Agence de la transition écologique qui fait des contenus incroyables. Et j'ai lu quelques-uns de leurs articles et de leurs documents sur le marketing responsable. Et c'est d'une intelligence bluffante. Donc, je ne peux que recommander cette référence qui est vraiment top. Trop bien. Et pour revenir, du coup, à la communauté, au mouvement social Déclic, comment vous l'avez construit? Quelle a été la genèse et la première forme, on va dire, de la commu? Comment vous avez itéré peut-être sur votre modèle économique, votre modèle d'animation et d'engagement de la communauté, du rôle que vous donniez aux membres, etc.? Il y a 1000 questions dans cette question, donc on va y aller tranquillement. Mais, ouais.
Mais c'est vrai que si on pense à la jeunesse, je pense que ce qui nous a aidé, on ne l'a peut-être même jamais formulé, mais je pense que c'est qu'on a commencé, j'ai commencé, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Charlotte, un sprint Make Sense. Make Sense, c'est aussi des pros de la communauté, absolument, de l'animation de communauté. Et du coup, ils nous invitaient assez rapidement à aller questionner les clients très vite, avant même de réfléchir aux produits, aux services. Et du coup, l'idée de base, c'était un peu faire le Malte de l'ESS. Et en fait, c'est très rapidement, peut-être au bout de un mois, on a réuni des freelances, on a plutôt fait un atelier d'intelligence collective pour dire quels sont vos besoins en termes d'engagement, en termes de service. Et c'est là où on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout le Malte de l'ESS qu'il fallait faire, mais une communauté. Donc, en fait, dès la première brique, on avait déjà créé une communauté. Alors, tout le monde ne nous a pas rejoint après, mais créé une communauté, un collectif de personnes qui nous ont dit à quel point c'était important... le lien humain, l'échange, l'entraide, surtout sur ces sujets-là qui peuvent être un peu en lien avec l'éco-anxiété, qui peuvent pas forcément qui peuvent avoir des côtés où on a besoin de se sentir soutenu, rassuré. Donc nous, c'est comme ça qu'on a démarré sur l'aspect communauté, qu'on a tout de suite mis ça au centre du projet. Et puis je pense aussi ces comités dont je parlais, qu'on a réunis tous les mois, les premiers mois pendant plus de quasiment un an et demi. Ça a vraiment permis de créer quelque chose de collectif, de réfléchir ensemble. Et d'ailleurs, on s'est toujours dit avec Charlotte, nous, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de jamais avoir peur de partager notre projet, jamais avoir peur d'inclure des gens, que ce soit nos clients ou pas, parce qu'on pense que l'échange entre deux personnes, trois personnes, quatre personnes est très riche, on peut tous s'apporter. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a aussi construit notre programme, qui est en collectif. Nous, on croit vraiment beaucoup, quel que soit son parcours, quelle que soit son expertise, on a tous et toutes à apprendre les uns des autres. Donc, dès les balbutiements, on s'est rendu compte que le collectif était central.
Trop bien.
Et ouais, je crois que les mots d'ordre vraiment qui sont au cœur de notre aventure, c'est vraiment aussi l'agilité. Mm-hmm. On a toujours testé des petites choses et l'autre, c'était l'écoute. Et je pense que dans l'écoute aussi, ce qui a été important pour nous, c'est ce rôle de l'advisory board, nous on les appelle nos Déclic Angels, mais aussi les membres de la communauté, ils nous ont énormément coachés. Aussi parce que nous-mêmes, on avait notre cheminement à faire d'entrepreneuse, que ce n'était pas forcément évident. C'était pour toutes les deux une nouvelle aventure. C'était notre première aventure entrepreneuriale avec ce petit syndrome de l'imposteur qui nous suivait. Et notamment, tu parlais du modèle économique et du pricing. Ça, par exemple, ça a été un vrai sujet parce que comme on faisait de l'impact, on avait envie que ce soit juste, équitable, abordable. Mm-hmm. Mais du coup, parfois, on allait un peu trop loin là-dedans.
Okay.
Et pour te donner juste l'exemple du programme, le premier programme de formation qu'on a vendu, c'était aussi une phase de test, mais il était à un prix dérisoire.
Mmh.
Et c'est aussi les gens qui nous ont aidés. Et encore aujourd'hui, ça nous arrive en disant, mais en fait, vous proposez de la valeur, les filles, là, faut un peu augmenter les prix. Donc ça, c'est l'exemple du prix. Mais les Déclic Angels et les membres de notre communauté nous ont aussi confortés dans des choix qui étaient un peu audacieux sur notre modèle économique. Je vais te donner un autre exemple. Pour les membres de notre communauté donc, qui payent un abonnement, ils accèdent donc à des opportunités de mission qu'on partage uniquement à la communauté.
Mm-hmm.
Et si ça match, si ces opportunités de mission matchent, on fonctionne au pourboire. Et c'est quelque chose qui est ressorti justement parce qu'on a pas mal échangé, discuté, notamment avec nos fameux Déclic Angels, les membres de notre advisory board, qui avaient confiance en ce modèle économique.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand tu vas le challenger en externe, les gens nous disaient « mais vous êtes tarés les filles, ça va pas tenir vos trucs ».
J'avoue que mes yeux se sont écarquillés quand tu as nommé la technique.
Et voilà, et on a testé, on a un peu persévéré.
Ouais.
Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui fait partie intrinsèquement de nos valeurs. Et qui est vraiment ancré dans notre vision, dans notre proposition de valeur.
Ouais.
Et je crois que tout le monde s'y retrouve bien et nous aussi quoi.
Et ça marche quoi. Mais 90% ouais. des freelances jouent le jeu. On fait que du déclaratif. Hein. On fait que voilà, si vous avez travaillé, vous nous dites le nombre de jours que vous avez travaillé.
Mm-hmm.
On va pas vérifier si c'est bien ça les devis. Et en fait. Chacun joue le jeu parce que je pense que les freelances se rendent compte qu'on n'est pas là juste pour une rentabilité, un
Bien
CA,
sûr.
Mais pour construire ensemble, pour essayer justement d'aider des structures de l'ESS à avoir des freelances engagés, aider des freelances à avoir des missions. Et c'est le freelance qui a sa juste valeur par rapport à sa situation, par rapport à son métier, par rapport au budget de la structure, décide du pourcentage qu'il souhaite nous reverser.
Bah, c'est trop intéressant. D'ailleurs, quand t'en parlais, je me posais la question... On a toujours un petit peu peur de cette notion de pourboire, mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'études qui montrent que quand tu passes sur une stratégie de participation libre, les gens se sentent un peu obligés de donner plus que ce qu'ils auraient donné s'il y avait... Enfin, généralement, tu t'en sors peut-être presque un peu mieux quand c'est participation libre que quand c'est un montant fixe. Enfin, ça dépend, j'imagine, des contextes, des produits et des situations, mais du coup, si tu comptes sur la bienveillance des gens, tu peux te retrouver avec des... Un ROI plus élevé, en plus.
Ouais,
gagnant-gagnant.
C'est responsabiliser aussi le freelance. Et puis, c'est aussi lui donner l'occasion de réfléchir à la valeur qu'on lui apporte. De lui dire, voilà, de dire à la personne ce que tu considères juste de nous reverser un pourcentage et de combien. Alors, bien sûr, on donne un peu, nous, des guidelines, on donne un peu des idées pour aider dans la décision. Mais,
ouais. Mais ça marche. Ok,
mais ça
trop
marche.
Bien. Est-ce que tous les freelances qui font partie de la communauté ont été formés à votre... sont passés par votre programme Freelance for Good. Est-ce que c'est parce que du coup, sinon, il n'y a pas de pratique homogénéisée, j'imagine, dans les missions qui mènent.
Alors aujourd'hui, effectivement, tout le monde n'a pas suivi le programme. La communauté, elle est ouverte. On s'est beaucoup posé la question de postuler ou pas à la communauté, de le réduire. Après, notre envie, elle est aussi quand même de beaucoup sensibiliser et on a une grosse envie de plaidoyer aussi sur ces sujets. Donc, on n'a pas voulu restreindre la communauté à des gens qui peut-être n'ont pas les moyens de la formation ou n'ont pas forcément, sont au tout début de leur réflexion. Mmh. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis après, aussi dans la communauté, beaucoup de gens qui rentrent sans faire la formation, ce sont des gens qui sont déjà freelance, assez engagés et déjà dans des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, ça dépend. Il y a plusieurs façons de rejoindre le collectif. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des gens qu'on connaît et quand on va les faire monter sur des missions, on essaye de prendre en compte le fait qu'ils aient fait le programme ou pas, de prendre en compte leur expérience. En tout cas, voilà, on est au plus près des freelances. Et puis, dans la communauté, on essaye aussi de sensibiliser sur les sujets engagés, donc pour qu'ils montent en compétences, ils et elles montent en compétences aussi sur l'engagement. Quoi.
Trop bien. Je me posais une petite question. Est-ce que vous n'avez pas peur, parfois, du greenwashing ? Sous plusieurs formes, j'imagine, certains freelances qui essayent de venir et avoir un petit vernis reluisant, ou à contrario, des entreprises qui essayent un peu... Bon, après, si vous vous adressez aux entreprises à impact, j'imagine que c'est quand même plus difficile, mais en tout cas, des boîtes qui ne viennent pas forcément vous voir pour les bonnes raisons.
C'est un très bon point. Du coup, nous, déjà, quand les freelances rejoignent notre programme ou la communauté, on invite quand même les personnes à se questionner sur sa définition de l'impact.
Mm-hmm.
Et ce qu'on se disait en préambule au démarrage de cet épisode, c'est que du coup, effectivement, tu as deux stratégies. La stratégie de l'allié où tu vas travailler pour des structures impact, pour les aider à gagner en visibilité, en performance, etc. Ou alors, ce que nous, on appelle la stratégie des infiltrés. Donc, tu vas dans des structures qui, aujourd'hui, ne sont pas impact. Et à l'échelle de la stratégie donc, de la RSE, tu essaies de faire bouger les lignes. Ou à l'échelle d'un projet, par exemple, sur le développement d'un site web, tu vas proposer une refonte qui prend en compte l'impact carbone, l'accessibilité, etc. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens nous rejoignent plus et nous connaissent plus sur la première stratégie, donc pour plutôt collaborer avec les structures de l'impact. Mais régulièrement, on est quand même questionné sur et d'ailleurs, c'est une question qu'on nous a posée hier à la conférence,
ouais.
Si Total vous contacte pour trouver des freelances pour décarboner leur industrie, est-ce que vous acceptez est-ce ou pas la mission? Ouais. Et c'est vrai que c'est des questions qui reviennent régulièrement. Et je pense que ce sera déjà des questions sur lesquelles on pourra débattre collectivement, parce qu'on est une communauté et c'est intéressant. Et c'est par le débat aussi qu'on trouve des consensus. Et après, c'est aussi une envie personnelle. Par exemple, il y avait deux freelance for good hier qui étaient avec nous on stage et qui ont répondu à cette question. Et toutes les deux ont répondu, je sais qu'il faudrait le faire, mais ce ne sera pas moi.
Oui.
Et en fait, c'est quelque chose d'assez personnel. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont des très bonnes personnes pour aller faire un peu de politique en interne et qui ont cette résilience et qui sont prêts à jouer le jeu sur la durée, parce que je pense que du coup, il y a besoin de sortir quand même les rames pour faire c'est bouger clair. Les lignes dans ce genre de boîte, versus des gens qui ont envie de plus d'impact tout de suite et du coup, travailler avec ce que nous, on appelle les pure players de l'impact, donc les associations, les fondations, les ONG. Mais la question du greenwashing se pose effectivement pour les structures. Et pour les freelances, ce qui se passe, c'est que nous, de toute façon, on échange soit Colline, soit moi, avec 100% des freelances qui rejoignent le programme et ou la communauté. On n'est pas en mesure d'évaluer la compétence technique et on ne se positionne pas là-dessus. Sur la technicité du métier, j'entends. Mm-hmm. Mais par contre, ça nous permet quand même de vérifier si c'est une vraie volonté ou si c'est de l'opportunisme. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je ne crois pas, tu me diras, mais je ne crois pas avoir rencontré, enfin moi en tout cas personnellement, je n'ai jamais rencontré de personne que je sentais opportuniste sur ce sujet. Et un bon moyen de le vérifier, et c'est une question qu'on pose à chaque fois, c'est... Quelles actions as-tu mis en place pour t'éveiller sur les enjeux climatiques et sociaux? Donc, souvent, à cette question, on nous répond « J'ai lu la BD Jean Covici, le dernier rapport du GIEC, j'ai fait une fresque du climat, une fresque du numérique. » Donc ça, pour nous, c'est quand même des bons facteurs d'envie déjà de comprendre.
Carrément.
Et après, comprendre, il y a agir. Et là aussi, on pose la question. Et je pense que 100% des gens qui ont rejoint le programme ou la communauté, surtout la communauté, parce que c'est des gens qui sont souvent un peu plus matures dans le cheminement, sont engagés dans leur vie personnelle déjà. Et c'est justement parce qu'ils sont engagés dans leur vie personnelle et que jusque-là, ils n'étaient pas dans leur vie professionnelle, qu'ils ont ressenti une dissonance et qu'ils ont eu besoin d'aligner aussi leur travail avec leurs valeurs. Du coup, c'est souvent des personnes qui sont eux-mêmes animateurs de fresques, bénévoles dans des associations, mentors de jeunes, qui travaillent aussi parfois dans des écoles. Et tout ça est quand même une belle preuve que c'est pas du bullshit et c'est pas de l'opportunisme.
Je vois. Ok. Trop bien. Parce que je vous ai posé la question, parce que c'est vrai que je trouve ça à la fois passionnant et difficile de parler de marketing responsable. Si on commence à créer une espèce de ségrégation entre les entreprises qui pratiquent un marketing responsable et les autres qui jouent selon des règles du jeu qui sont peut-être un peu moins louables, mais qui marchent. Et du coup, en fait, de créer une espèce de bulles, deux univers parallèles dans lesquels vivent ces entreprises et du coup, qui ne communiquent plus et qui ne sont plus en capacité de toucher une certaine part de marché. Je m'explique. J'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Alain Damasio, qui a créé une école qui s'appelle l'École des Vivants, qui propose des séances de formation, des stages de formation à l'écriture, au storytelling, etc., au nouveau récit. Mais il a une conviction, c'est qu'il ne tient pas en très haut regard les réseaux sociaux, donc il refuse que son école soit présente sur les réseaux sociaux. Donc du coup, en fait, pour recruter des étudiants pour ces stages et ces séminaires, c'est extrêmement compliqué, surtout sur les débuts où en fait, du coup, tu n'es pas connu, tu as un réseau qui est assez limité, qui est à ta personne et à ton amplitude de prise de parole. Encore lui, c'est un auteur reconnu, donc il est quand même relativement large, mais c'est très difficile d'être directement vertueux et responsable, je trouve, si tu veux te faire connaître, si tu veux construire un projet. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est complexe pour pas mal d'entrepreneurs ou de marketeurs qui sont sur des amont de phase, qui n'ont pas encore d'audience complètement construite et constituée et engagée et qui auraient envie d'avoir des pratiques plus vertueuses, mais qui sont un peu obligés de jouer selon les règles qui sont de mise aujourd'hui.
Ouais, je partage complètement. Et du coup, deux exemples sur Social Déclic. Le premier, c'est notre site web. Nous, on avait quand même une urgence de tester et de pérenniser notre activité. Donc, il nous fallait un site web. Et du coup, on a pas mal bidouillé, surtout Colline. Et voilà, et du coup, on a monté un site web sur WordPress sans se poser la question, même si on savait qu'on l'avait, mais en tout cas, on ne pouvait pas la traiter tout de suite parce qu'on avait mille autres urgences. Mmh. On s'est dit, on traitera plus tard l'impact carbone, l'accessibilité et l'inclusivité. On se posait pas mal de questions, on n'était pas tout à fait au clair. Et en fait, quand on a eu les moyens financiers et les moyens aussi d'y allouer du temps, à peu près deux ans et demi après la création de Social Déclic, ben, on a pris ce chantier à bras-le-corps. Et rien n'est parfait encore. Il y a sûrement encore plein de choses à faire. Mais voilà, on a travaillé avec une freelance de la communauté. Elle nous a aidé à réduire l'impact carbone de notre site Internet, à le rendre accessible pour les personnes en situation de handicap. En parallèle, on avait proposé une masterclass aux personnes de notre communauté sur l'écriture inclusive.
Trop bien.
Qui nous a permis en fait de nous mettre d'accord sur effectivement il faut qu'on la pratique, qu'on essaie de la pratiquer du mieux possible sur notre site web. Et du coup, là, on est en train de revoir toutes nos pages pour les passer en écriture inclusive. Et un autre exemple concernant Social Déclic, c'est les réseaux sociaux. On est plus présent en termes de réseaux sociaux sur LinkedIn. Et à un moment, tout le monde nous disait bah, ouais, les free sont aussi sur Insta, sont aussi sur TikTok, sont aussi sur telle et telle plateforme. Du coup, on s'est questionné. Donc déjà, on s'est dit, pas plus de deux réseaux sociaux. Déjà pour l'écologie de nous-mêmes. Je pense que c'est important aussi que les entrepreneurs pensent à ça, l'écologie de soi, et aussi pour l'impact que ça a. Donc aussi dans les formats, les médias qu'on propose, on fait des fois des vidéos, mais on évite quand même. On évite aussi les gifs, par exemple. Donc on se questionne quand même sur le contenu qu'on partage. Et là, il n'y a pas longtemps, on se questionnait sur Instagram de est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. Et en fait, on a trouvé un consensus, c'est OK, mais on réduit le nombre de posts et de stories pour quand même avoir une petite sobriété numérique et une écologie de nous-mêmes. Donc, je pense que... En fait, je dis ça pour dire que c'est un... On ne peut pas être parfait au démarrage, qu'effectivement, la priorité quand on lance un projet à impact ou pas, c'est quand même de le tester. Que aujourd'hui, être présent sur le digital, c'est hyper important. Sur la toile, ça nécessite d'avoir potentiellement un site et d'être présent sur les réseaux sociaux. Et qu'après, on peut décider de faire mieux, de se poser la question de la sobriété, etc.
Trop bien. C'est encourageant. C'est un bon élément de réponse. Merci. Et j'entends que c'est graduel, progressif et que ça demande une remise en question quand même perpétuelle et beaucoup d'observations. J'ai peut-être une dernière question par rapport à finalement votre manière d'aller trouver des missions. Comment vous faites ou comment vous envisagez de faire pour grandir, pour développer le mouvement, le collectif, la communauté, trouver des missions de plus en plus, tout en restant fidèle à vos valeurs initiales, à vos engagements initiaux ?
Il y a un vrai sujet sur le secteur de l'économie sociale et solidaire et un peu plus largement sur l'impact, c'est le besoin aussi de faire comprendre le métier de freelance. Ce n'est pas forcément un réflexe pour des structures de l'ESS, hein, donc économie sociale et solidaire, de faire appel à des freelances. Donc nous, on a cette envie d'aller expliquer ce statut, de faire un peu d'apologie sur ce statut-là, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même un statut qui était intéressant pour les structures, parce qu'elle permettait de résoudre un peu l'équation. J'ai besoin d'une certaine expertise, d'un certain niveau de seniorité, mais je n'ai pas un budget suffisant pour prendre une personne en CDI et pour du coup prendre un temps plein et la payer toute l'année. Et donc le freelancing permet un peu de résoudre cette équation, Nous, on a vu plein de structures venir nous voir en disant bah, « je cherche un CDI sur un sujet, mais en fait, il n'y a que des juniors qui postulent, j'ai aucune compétence en interne pour former ce junior, donc je prends un freelance à mi-temps sur ces sujets. » Donc nous, on a cette volonté d'aller voilà, être un peu le porte-parole des freelances auprès des structures de l'ESS. Alors, sans dire il faut prendre que des freelances, hein, bien sûr, c'est prendre des freelances à côté de CDI, à côté de bénévoles, mais élargir l'équipe aussi au statut freelance, qui est intéressant dans certaines situations. Donc, c'est cette envie-là. Et puis, il y a un sujet, alors on n'est pas que sur le numérique, mais c'est vrai qu'il y a aussi un sujet sur le numérique pour les structures de l'ESS qui sont, et de l'impact, qui, certaines, sont en retard sur ces sujets-là, n'ont pas pris le virage du numérique, n'ont pas les outils pour être visibles, tu parlais de marketing, ne connaissent pas, en fait, les outils pour être visibles auprès de potentiels bénéficiaires, auprès de potentiels partenaires, donc qui ont besoin de prendre en main les codes un peu du secteur classique. Et donc, nous aussi, on fait un peu d'acculturation sur ces sujets, d'expliquer tout simplement ce que c'est le métier de développeur, le métier de graphiste, le métier de marketeur, le métier de communicant, de responsable stratégie, etc. Et donc, nous, on a cette volonté-là de donner un peu les clés du secteur privé qui fonctionne, pas à des fins de rentabilité financière, mais à des fins de plus de visibilité auprès des bénéficiaires, etc. Et après, on fait partie de la coalition Tech for Good, qui sont aussi des acteurs qui accompagnent les structures de l'ESS. On est partenaire de Jobs That Make Sense. C'est aussi comme ça qu'on se met au plus proche des structures à impact. On est aussi partenaire avec Hello Asso. On a construit des choses ensemble. Donc nous, on va aussi, pour développer la communauté, en tout cas du côté des missions, s'appuyer sur des partenaires qui sont déjà très présents aux côtés de ces structures de l'ESS et de l'impact.
Trop bien. Une belle conclusion et en tout cas, très beau projet. Je vous remercie pour votre temps et tous vos partages. C'était passionnant. On aurait pu continuer pendant longtemps. Et ça donne envie de se poser des questions sur sa propre pratique. Je pense que je vais avoir une petite introspection à faire après cette interview.
Et puis, chacun son chemin, chacun son rythme. Il n'y a pas une dichotomie entre les freelances for good et les freelances tout court. On a chacun nos niveaux d'impact. Et ce qui compte, c'est de faire un petit pas en avant, on pense.
L'intention.
Voilà.
Ok, bah, très belle conclusion. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à très vite.
Merci, merci Noémie.
Alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode ? Pour ma part, j'ai adoré ce témoignage honnête et sincère, mais aussi la mesure du propos de Colline et Charlotte. Derrière les sirènes du marketing responsable, il y a toujours le risque de tomber dans du greenwashing, qu'on le fasse consciemment ou non. Alors ce que j'en retiens, c'est que toute pratique peut être améliorable et devenir plus responsable, que l'on soit dans l'impact ou non. Mais ce, à condition qu'on se pose les bonnes questions. Je vous laisse réfléchir à ça, et j'espère que ça vous inspirera dans vos propres métiers. À très vite dans The Storyline.